La dette pour les banques et la mauvaise dette, c'est la dette pour le social, l'éducation, la justice, tout ça.
Je ne pensais pas à cette métaphore, mais elle s'applique tout à fait. Vous vous souvenez qu'au moment du traité de Maastricht, on avait établi des critères de convergence, et parmi ces critères de convergence, il y avait l'idée que les déficits publics ne devaient pas dépasser 3% du produit national brut par an. À l'époque, on était très strict là-dessus. Le ministre des Finances allemand disait même « c'est pas 3%, c'est 3,000%, pour bien expliquer que ça ne serait pas 3,01%. Et là, bon, c'est fini, hein. La très vertueuse Allemagne est à 6,5% du PIB, la France est à 8%, les États-Unis à 10%, le Royaume-Uni à 12%. Alors forcément, comme c'était scandaleux d'avoir 3%, maintenant à 8%, à 10%, à 12%, c'est encore plus scandaleux. Et là, il va falloir payer, quoi. Et payer quoi ? Eh bien, la dette que nous allons léguer à nos enfants, puis pour nos petits-enfants aussi, une génération de plus. Devinez qui va payer la dette. Alors évidemment, il y a plusieurs moyens de payer la dette. On pourrait relever les impôts des plus riches, ceux qu'on a cessé de réduire depuis 30 ans. Aux États-Unis, par exemple, le taux s'appliquant aux revenus les plus élevés est passé depuis 1981 de 70% à 35%. En France, c'était 65%, la tranche marginale sur les revenus les plus élevés en 1985, et là, on est à 40%. Et je ne parle même pas des exonérations, des boucliers fiscaux qui rendent ces taux, en fait, beaucoup plus virtuels que réels.
Donc là, vous parlez d'une recette populiste, c'est-à-dire faire payer les riches.
Alors, naturellement, comme c'est une recette populiste, rétablir la progressivité de l'impôt direct, il n'y a aucun risque qu'on le fasse dans le contexte politique actuel, et on s'apprête même à faire le contraire. Alors, on doit se poser la question maintenant. Et si toute cette dette s'était fait exprès ? Parce qu'on peut se dire, tiens, c'est pas de chance, quoi. On a dû dépenser, etc., et on découvre qu'il y a de la dette. Mais on peut se poser la question de savoir si c'était fait exprès. En 1981, Ronald Reagan arrive au pouvoir. Il a fait campagne en disant il y a un déficit budgétaire de 60 milliards de dollars par an, c'est inadmissible. Et moi, quand je serai élu, ce déficit doit disparaître. Et puis, deux ans plus tard, le déficit budgétaire qui était de 60 milliards passe à 200 milliards. Et donc, les démocrates triomphent en disant « Regardez, Ronald Reagan est nul, il n'a pas du tout tenu ses promesses ». Seulement, il y a un sénateur démocrate de New York qui dit « Je crois que vous n'avez rien compris. Il n'est pas nul du tout. Et ce qui s'est passé, c'est intentionnel. C'est intentionnel parce que l'objectif de Reagan, c'est que le débat public tourne en permanence autour d'un thème unique qui est « Comment réduire les dépenses ?» Que chacun des partis soit obligé en permanence de se poser la question du « Comment réduire les dépenses ?» Ce qui, naturellement, est un thème beaucoup plus porteur pour la droite que pour la gauche. Parce que la droite a l'image de celle qui peut plus facilement réduire les dépenses en supprimant, par exemple, un certain nombre de postes de fonctionnaires, en réduisant l'aide sociale, en ramenant les déductions fiscales qui bénéficient aux accidentés du travail, etc., comme on le voit en ce moment. En revanche, la gauche, si elle veut réduire la dette, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit augmenter les impôts, ce qui n'est pas très électoraliste. Et donc, ce sénateur démocrate disait « Reagan, en quelque sorte, a construit le débat politique autour des thèmes qui sont les thèmes les plus porteurs pour la droite. Et cet endettement, ces déficits publics, ne sont pas du tout un accident, mais sont un dessein, sont un projet délibéré qui vise à déterminer que le débat politique se fera toujours autour des thèmes de la droite. » Et on en est là. Et on en est là, et il est bien possible dans ces conditions que la crise du libéralisme, qui était la première étape, est conduit à une explosion des dépenses de l'État pour sauver le système libéral, ce qui a été la deuxième étape, et que tout ça favorise à présent une réduction brutale des dépenses publiques, en particulier sociales, au nom de la lutte contre la dette, ce qui serait la troisième étape. Et c'est ce que certains ont même appelé la politique des caisses vides. En d'autres termes, cette crise du libéralisme pourrait avoir pour conséquence de rendre encore plus facile à présenter les thèmes dominants du libéralisme, notamment la réduction des dépenses publiques et la réduction du périmètre de l'État.
Et ça, vous l'observez en France et ailleurs ou...
On l'observe à peu près partout, puisque vous avez vu qu'en Allemagne, récemment, une nouvelle coalition est venue au pouvoir et que l'une des premières mesures qu'elle a annoncées, c'est la réduction des impôts. On a la même chose au Royaume-Uni, où probablement dans quelques mois les conservateurs vont revenir au pouvoir, et ils ont annoncé eux aussi une réduction des impôts. Donc il y a tout de même quelque chose de très paradoxal à dire à la fois la dette...